nous recueillir un instant dans la prière. Ô tendre Père, dans cette soirée, nous désirons être occupés de la personne de ton bien-aimé Fils, celui que tu nous as donné pour qu'il soit pas seulement notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, mais pour qu'il soit aussi notre bien-aimé et que nous puissions connaître ce qu'est ton amour à toi, ô Dieu, car Jésus est le Fils de ton amour. Et tu voudrais que nous jouissions du même bonheur que toi, le Dieu bienheureux, que nous soyons nous aussi des bienheureux. Et nous savons que tout ton bonheur, ô tendre Père, tu le trouvais dans ton Fils, dans ton unique. Et nous voulons te remercier de penser que dès l'éternité, tu as voulu avoir auprès de toi, dans ta maison, une famille semblable à ton Fils. Et c'est à cela que tu nous destines. Donne-nous de le croire. Et qu'un voile se déchire devant nos yeux et devant nos cœurs. Et que nous puissions entrer dans les profondeurs de ton amour et sortir de ce lieu en étant des bienheureux en cette soirée de juillet 1995 pour ta seule gloire et pour satisfaire ton âme en Jésus. Amen. Vous savez que je me tiens toujours devant Dieu pour savoir heure après heure ce que nous devons vous apporter, et j'ai reçu la conviction que je devais d'abord vous faire quelques lectures pendant que vous n'êtes pas trop fatigué et que vous pouvez entendre la parole, parce que c'est beaucoup plus important que vous ayez en mémoire la parole de Dieu. C'est toujours le même thème, fiancé à Christ, que nous allons traiter ce soir. Et comme nous vous l'avons déjà dit, c'était annoncé sur le dépliant bleu, ce titre, nous le trouvons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11e, où l'apôtre écrit aux Corinthiens en leur disant que, en leur prêchant l'évangile, eh bien, il a voulu les fiancer à Christ, les lier à Christ pour toujours. Et sa souffrance, il nous l'exprime, c'est qu'il apprend que dans ces églises qu'il a fondées, où il n'a pas cherché à s'attacher les âmes, à attacher ceux qui confessaient Jésus-Christ, il apprend qu'il y avait des divisions, que les uns disaient « moi je suis Paul », d'autres « moi je suis d'Apollos », d'autres « moi je suis de Céphas », de Pierre. Et il est affligé. Mais il n'y a pas seulement cela. Mais il y a des prédicateurs qui viennent dans ces assemblées déjà constituées et qui leur annoncent un autre Jésus que celui qu'il leur a prêché, présenté. Et vous savez, quand l'apôtre Paul présentait Jésus, c'était tellement vivant qu'on aurait dit qu'il était là. Puis il était là, bien sûr, invisible. Mais, en quelque sorte, on le voyait. Quand il a parlé aux Galates, il leur a dit, mais est-ce que vous n'êtes pas insensés? vous devant les yeux de qui je vous ai prêché Jésus-Christ crucifié au milieu de vous. Chapitre 3 des Galates. Il leur avait parlé de la crucifixion d'une telle manière que les Galates étaient comme s'ils avaient été à Golgotha, au calvaire. Quelques dizaines d'années avant. Puis voilà que Paul apprend qu'on leur prêche un autre Jésus. C'est pas seulement ça, mais qu'on leur dit qu'ils doivent recevoir un autre esprit que celui qu'ils ont reçu. Car s'ils n'avaient pas l'esprit, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est très clairement dit dans la parole. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Alors qu'on vous dit, mais venez pour recevoir le Saint-Esprit. Donc ils ne sont pas convertis, ces gens qui vont là-bas. Si vous êtes sauvés, le Saint-Esprit habite en vous. C'est pas une question de sentir quelque chose. C'est une question de croire ce que vous dit la parole. Et quand vous croyez cela, alors quelque chose de tout différent se passe en vous. Car quand on est habité par la personne du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est une personne, il manifeste en nous sa présence. Et si nous faisons quelque chose qui n'est pas agréable au Fils et au Père, le Saint-Esprit en est attristé. Et quand on a connu la joie du Saint-Esprit, on ne peut plus s'en passer. Et c'est justement cette tristesse du Saint-Esprit en nous qui nous amène à la repentance. Pour que Dieu nous rende la joie de notre salut. On ne perd pas à chaque fois qu'on a péché notre salut, mais on ne peut plus pécher avec indifférence. Ou sans qu'il y ait une souffrance. Voyez-vous, le péché ne paye pas, et comme le disait Tolstoï que j'ai cité quelquefois, il laisse un arrière-goût de cendre. Et finalement, malgré tout ce que vous pouvez lire et entendre ou voir, les plaisirs de la chair sont finalement fades. Alors, que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Paul est inquiet. On vous prêche un autre esprit, un autre Jésus. Et finalement, c'est un autre évangile que l'on essaye d'introduire dans ces communautés, alors que lui a travaillé à ce que les âmes soient attachées au Christ. Paul sait très bien qu'il va disparaître, qu'il va passer, que ce n'est pas à lui, un mortel, qu'il attache les âmes, c'est à la personne de Jésus. Et puis, il leur montre que quand on s'est donné à Jésus, bien vraiment, on est fiancé à lui, et alors, ce temps des fiançailles, c'est ce qui nous reste à vivre, en attendant l'union totale dans la gloire. Et, pour vous montrer ce que ces faux apôtres essayaient d'introduire dans le temps où vivaient encore Pierre, Paul et Jean, je vais vous lire quelques textes pour que vous sachiez bien que c'est ça la parole et que nous sommes dans des jours où se manifeste à nouveau d'une façon très violente et en quelque sorte finale ces théories. Chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre. Est-ce que vous allez croire cette parole? Si je vous la lis, est-ce que vous allez, dans les journées de ce camp, relire cela? Parce que peut-être que vous aviez oublié. Il y a eu, vous savez où est la deuxième épître de Pierre, hein? C'est pas dans l'Ancien Testament. Vous l'avez trouvé? Deuxième épître de Pierre. C'est pas après l'Apocalypse. Et vous savez, l'autre jour, j'étais à Saint-Hyacinthe avec mon cher ami dont la compagne, la femme, l'épouse est avec nous ce soir, Marie-Louise. Et son mari avait eu la gentillesse de me conduire à Saint-Hyacinthe à l'infirmerie du monastère du Précieux Sang, parce qu'il avait été lui-même très bouleversé par une lettre que cette mère supérieure qui a 95 ans m'avait écrite en disant, quand elle a su que j'avais un cancer, « Je prie le Seigneur de toute la force de mon âme pour que le précieux sang de Jésus vous nettoie complètement ce cancer et que vous soyez guéri. » Et quand elle a écrit cela, eh bien, je pense que c'est deux jours après, quand le docteur m'a examiné, il a dit, il n'y a plus rien, c'est négatif. Alors, c'est quand même beau. Puis elle me disait, lorsque vous m'écrivez, ça me fait rajeunir, ça me fait revenir à mes 20 ans. Puis on a un peu eu de peine à trouver la porte d'entrée de cette clinique du précieux sang. Puis on est allé tout droit au monastère. Puis alors, il y avait une sœur derrière la grille. Elle m'a reconnu. Puis elle me dit, oh, mais je me souviens bien des réunions que vous nous avez faites au précieux sang dans le monastère de Montréal. Puis elle me dit, vous nous aviez appris comment on pouvait se souvenir des livres, des épîtres de Paul, puis elle commence, rococo, galactico, titi, voilà, comme ça. Rococo, galactico, titi, fi. Bon. Alors, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Puis vous savez, cette sœur, elle était belle, c'est vrai. Elle était belle. Et on voyait qu'elle aimait le Seigneur. Alors on est allé voir la vieille sœur, et c'était un moment délicieux, un de ces moments d'éternité, quand on passe avec une âme qui aime le Seigneur, elle peut être encore dans ce catholicisme, mais elle a dépassé tout cela. Puis elle nous parlait de cette maison où elle allait entrer et où nous serons ensemble. Oh, que ce sera beau. Alors voyez-vous, il faut s'aimer les uns les autres. Et quand on s'aime les uns les autres, quand on prie les uns pour les autres, et voyez-vous, elle me dit, vous me dites bien chaque fois que vous avez une retraite à Châteauguay. Parce qu'elle me dit, au moins dans cette maison, les catholiques n'ont pas peur d'y aller. Et pas bête. À 95 ans. Parce que c'est une maison qui est d'origine catholique. Elle était tellement réjouie. Et je remercie encore le mari de Marie-Louise d'avoir eu cette gentillesse de m'y conduire. Alors, vous êtes à l'épître de Pierre. Si c'est la deuxième, ça veut dire quoi? Il y en a une avant, hein, qui est aussi de Pierre, hein? Alors, il y a eu, parmi le peuple, de faux prophètes, et il y aura, de même, parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, on apprend donc que Noé, pendant qu'il construisait son arche, il a prêché à ses hommes qui se moquaient de lui de construire un bateau en terre sèche. Mais il leur a dit que ce déluge allait venir, mais ils n'avaient jamais vu le déluge, alors ils n'y croyaient pas. Noé était un fou pour eux. Verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres, quelle ville? Les villes de Sodome et de Gomorre. Et qu'est-ce qui se passait à Sodome et à Gomorre? Ce qui se passe à Toronto, comme on l'a vu hier. S'il a condamné ces villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils vivent les impies à venir? Qu'est-ce que c'est qu'un impie? C'est un homme qui rejette Dieu, qui rejette sa parole. Les impies à venir, nous y sommes, chers amis. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, quand on voit les photographies qu'on a vues dans les journaux, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, attention, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Les gloires, ce sont les anges. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Oh, mais c'est mon penchant. Il n'est pas question de s'abandonner à nos penchants naturels. Et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront dans leur propre corruption. Quand vous pensez au sida, ils périront dans leur propre corruption. Mais maintenant, on essaye de détourner justement l'origine du sida et de parler uniquement des infections qu'on peut avoir par le sang contaminé, etc., et les piqûres. Or, il y a autre chose derrière tout cela. Ils périront par leur propre corruption, verset 13, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Si vous n'appelez pas cela iniquité, nous ne sommes pas dans l'esprit du Seigneur. ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Et c'était vrai, hein, en plein jour, puisque 600 000 personnes sont allées les voir. Hommes tarés et souliers, ils se délectent dans leur propre tromperie en faisant bonne chère avec vous. Et oui, ça entre jusque dans les églises et il y a des pasteurs qui bénissent des mariages entre hommes ou entre femmes. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Tandis que le croyant, comment est-ce qu'il est appelé? Un enfant d'obéissance, de bénédiction et d'obéissance. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression une année muette, faisant entendre une voix d'homme. Qui arrêta la démence du prophète. Est-ce que Dieu emploie quelquefois des animaux pour reprendre un homme qui s'égare? Qui se souvient d'un animal que Dieu employait pour faire rentrer en lui-même un disciple, un de ses disciples? Le coq. Et le coq chanta. Vous en souviendrez, hein, les enfants. C'était qui était repris? C'était l'apôtre Pierre. Et tout à coup, quand le coq a chanté, j'ai compris. Jésus lui avait dit, tu dis que tu veux me suivre partout. Mais le coq n'aura pas chanté deux fois que toi tu m'auras renié trois fois. Mais on se connaît pas, Pierre ne se connaissait pas, mais il jugeait tous les autres, il disait au Seigneur, quand même tous t'abandonneraient, et ils étaient là les autres disciples, c'est pas très gentil de sa part, hein. Quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Hein, le Seigneur ne veut rien à faire avec notre moi. Vous êtes sûr de vous-même? J'ai essayé de vous le dire, hein. Même après une longue vie avec le Seigneur, je suis encore en danger. Et vous avez vu Moïse. Et comment Dieu n'a pas passé l'éponge sur la faute de Moïse? Alors, comment ne pas être sur nos gardes? Surtout que Jésus l'a dit, une de ses dernières paroles, il le dit. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Voilà le seul. Ce que je le dis à tous, personne ne doit dire, oh ben ça c'est pas pour moi, parce qu'à moi il ne peut rien arriver, moi je ferai jamais cela. On ne se connaît pas soi-même. Et vous voyez cette page de Pierre, il y a bien longtemps qu'on l'a pas lu peut-être, hein. Mais quelle actualité! Les dernières nouvelles sont dans la Bible! Et il faut que ce soit une année qui reprenne la folie d'un prophète, comme c'était un coq qui a parlé au cœur de l'apôtre Pierre, qui s'est réveillé et qui, ayant vu le regard du Seigneur se poser sur lui, Jésus n'a pas parlé, il l'a seulement regardé. Il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré amèrement. Je vois que les enfants suivent bien. Il a pleuré. Et il a demandé pardon. Ça vous est déjà arrivé d'aller pleurer près vos parents pour leur demander pardon parce que vous savez que vous leur avez fait de la peine? Eh bien, quand vous faites cela, vous donnez de la joie dans le ciel. Je vous ai un exemple pour vos frères et sœurs. Mais vous voyez ces gens dont il est parlé dans ce chapitre, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Est-ce que c'est utile une fontaine sans eau quand on a soif? Non. Ben, ces gens-là sont des fontaines sans eau. C'est pas vers eux que vous irez boire. Des nuées que chasse un tourbillon. Quand on attend la pluie, hein, tout à coup on voit une nuée. Mais le vent passe et puis la chasse. Est-ce que la pluie tombe? Non. Alors vous voyez, il y a une apparence de promesse. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, c'est-à-dire les nouveaux convertis. Ils sont l'objet, justement, de ces attaques, parce qu'ils ne sont pas encore trop solides, et puis ces faux docteurs cherchent à les entraîner après eux, par leur discours. Ils leur promettent la liberté. Oh ben oui, vous serez libre, laissez tout ça de côté, et vous pourrez faire ce que vous voudrez. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous pouvez laver une truie, hein, et vous êtes heureux de l'avoir très propre, hein, mais laissez-la courir. Où est-ce qu'elle ira? Elle ira de nouveau se vautrer dans le bourbier. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Mais alors, est-ce que c'est des chrétiens, est-ce que c'est des croyants, des sauvés qui ont perdu leur salut? Dites-moi un peu. Est-ce que ce sont des gens qui avaient été sauvés? Non, ils avaient été impressionnés seulement. Des émotions. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on prêche. Et c'est une terrible responsabilité que d'avoir encore un camp. Peut-être le dernier, comme nous l'avons dit. Peut-être le dernier, comme nous l'avons dit. Pour moi, il y aura peut-être d'autres pour vous si le Seigneur n'est pas venu. Mais, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un chrétien qui aurait perdu son sein, puisqu'il a retourné à ce qu'il avait abandonné, en signant peut-être une carte de décision, en s'avançant, en faisant n'importe quoi? Qu'est-ce qui peut vous prouver que ce n'était pas un sauvé? Comment s'appelle un racheté du Seigneur, si vous pensez à un animal? Est-ce que le Seigneur dit, venez mes chiens, Venez mes truies, mes belles petites truies. Venez, venez. Qu'est-ce qu'il dit? Il les appelle des brebis. Alors ça, vous le saurez pour toujours. Un homme sauvé, un enfant sauvé, c'est une brebis. Elle était perdue, mais elle a été cherchée par le bon berger. Et quand il l'a trouvée, ou quand il l'a ramenée de son égarement, qu'il l'a poncée de ses blessures, qu'il l'a prise sur ses épaules, eh bien voilà, il la ramène à la maison. Les sauvés sont les brebis du Seigneur. Le chien est resté chien. Il n'a pas changé de nature. La truie est restée truie, alors elle a les mêmes habitudes. Alors, que cette parole de Dieu se fixe dans vos cœurs. J'ai arrêté là mes lectures, mais il y aurait d'autres passages qui sont aussi actuels que cette page-là. Je ne trouvez pas que c'est bon de relire un texte pareil et que ça vous fait revenir à l'écriture. C'est là qu'est la vérité. Et il faut que cette parole, pour vous, soit crue. Alors le travail de Paul, au début de son ministère, c'était d'amener les âmes au Seigneur. Et pour lui, il considérait cela comme des fiançailles avec le Christ. Les gens sont encore dans le monde, mais sont fiancés à Christ. Et il leur montrait que un jour, il y aurait les noces dans le ciel. Alors, après avoir prêché l'évangile, son souci, c'était de édifier ces âmes, de les façonner, de les faire croître, de les faire grandir dans la connaissance de Jésus. Et lui-même, après des années de conversion, il disait, ben, tout ce que je désire, moi, c'est le connaître, lui. On dit, mais Paul, tu ne connais pas le Seigneur? Mais oui, je le connais, mais je ne le connais pas encore assez. Chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Quand on a connu le Seigneur à la conversion, on désire encore mieux le connaître. Et c'est dans cette connaissance que se trouve la vraie science. Et Paul dit, j'ai fait pour le connaître la perte de toutes choses. Et j'estime même ces choses qui pour moi étaient un gain avant, j'y tenais beaucoup, bien j'estime ça comme des ordures à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Il disait pas, oh j'ai fait ces sacrifices. Non, c'était pas des sacrifices. Il a une nouvelle nature, il ne peut plus se nourrir des choses qui le satisfaisaient avant, et un vrai chrétien, il y a des choses auquel il renonce. C'est pas possible. Mais comment est-ce que j'ai pu aimer cela avant? Il y a un changement. Une conversion, c'est un demi-tour. C'est une autre direction. Et vous savez, chez les enfants déjà, on voit cela. Alors que le Seigneur nous donne de croire. Et vous voyez quand Paul a passé pour la dernière fois à Éphèse, ou plutôt à Milet, où il a réuni les anciens d'Éphèse parce qu'il voulait, il avait le pressentiment qu'il ne les reverrait plus. Alors il a voulu leur donner ses dernières paroles. Et c'était tellement bouleversant, c'était tellement touchant, il leur a dit, mais j'essaye de vous dire tout ce que je peux vous dire pour votre bien. Parce que je voudrais que vous connaissiez tout le conseil de Dieu, pas seulement la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus, mais que vous soyez bien au clair sur tout le conseil de Dieu, sur son plan, sur ce qui va se passer dans ce monde. Car je sais que vous ne reverrez pas mon visage. » Alors tout le monde s'est mis à pleurer. Ils sont mis à genoux sur la plage et se sont embrassés. Eh bien, Paul avait vraiment à cœur que ces églises qu'il avait fondées ne soient pas bouleversées et troublées par ces faux docteurs. Et voyez-vous, il les avertissait au chapitre 20 des Actes, verset 29. Il disait, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous. » Et quand on pense que c'est des pasteurs, des théologiens, dans l'Église, qui annoncent des choses comme nous avons vu hier, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et je disais, et maintenant, eh bien, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alors, mes amis, ce matin, nous avons compris qu'en un temps comme le nôtre, il fallait vraiment revenir à la simplicité quant au Christ. Et je voudrais vous dire un mot là-dessus. Qu'est-ce que c'est revenir à la simplicité quant au Christ? Bien, c'est croire que le Christ de l'Écriture est véritablement le Fils unique de Dieu, celui qui est dans le sein du Père. Et voyez-vous, on ne raisonne pas en disant, mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Vous entendez ça tout le temps. Hein? Ce n'est pas une question de raisonner ou de saisir, de comprendre. Puisque l'Écriture nous le dit, nous le croyons. Et c'est quand nous le croyons que la lumière se fait dans nos cœurs et que tout doute est chassé de nos pensées. Parce que voyez-vous, les pensées qu'on a sont des entraves et des péchés si on ne s'en juge pas. Quand vous doutez de la parole de Dieu, c'est un péché. Quand je me fais des soucis, je me souviens encore du jour où j'ai compris cela, mes soucis sont des péchés. Comment est-ce que je traite un péché? Eh bien, je le confesse au Seigneur. Et il me dit justement que je ne dois pas me faire de soucis, que je dois rejeter mes soucis sur lui, rejetant tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement, pour qu'on puisse courir la course avec patience. Mais le diable fait tout son possible pour nous préoccuper par notre situation personnelle, par nos difficultés, alors que dans ces difficultés, dans ces combats, vous devriez tout de suite, le Saint-Esprit vous rappelle la parole. C'est bien ce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera là, en vous, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Le Saint-Esprit est une puissante mémoire. Et c'est lui qui nous rappelle au moment opportun qu'il y a une parole pour nous et que nous pouvons nous attendre à une délivrance du Seigneur. on va tout de suite au Seigneur, dans le détail. Quand vous êtes à l'école et que vous avez une difficulté, si vous avez pourtant bien travaillé, parce qu'alors, hein, faut pas dire, oh ben moi je vais à l'école, puis le Seigneur Jésus va m'aider. Mais le Seigneur veut que vous fassiez d'abord vos devoirs, hein, ça c'est clair, vous l'avez bien compris, hein. Mais quand vous avez fait vos devoirs et puis qu'il y a une difficulté, vous pouvez crier sur votre banc d'école, Seigneur Jésus, toi tu t'y connais en toutes les branches, viens m'aider et vous verrez que vous pourrez dire après comme c'est vrai. C'est le Seigneur qui m'a aidé, mais vous n'irez pas à la maison en disant, oh, vous savez, moi, je suis le premier de ma classe, hein, je suis un bon élève, en attribuant tout cela à vous-même. Dites non. J'ai compté sur le Seigneur et le Seigneur m'a vraiment aidé. Voyez-vous, je pourrais vous raconter des souvenirs d'enfance où j'ai vécu cela et c'était vrai. Alors, vous pouvez ne pas me croire, dire, bon, je suis un vieillard maintenant. Mais pour être un vieillard, ben, il faut que le Seigneur ait été fidèle, hein, pour qu'on arrive à cela. Alors, croyez-le. Vous ne regretterez jamais d'avoir donné votre cœur quand vous étiez jeune au Seigneur, mais de l'avoir donné totalement et d'être fiancé au Fils unique de Dieu qui veut travailler en vous de telle manière pour que vous deveniez semblable à qui? À lui-même. Et que quand il entrera dans le ciel avec son Église, il dira, me voici Père, avec les enfants que tu m'as donnés. Et le Père vous verra comme il voyait son Fils. Vous serez reçus comme le Seigneur lui-même a été reçu. C'est une parole que j'aime beaucoup de l'apôtre Paul qui disait à son ami Philémon de Colosse au sujet d'un jeune serviteur qui avait quitté son maître et qui s'était converti depuis à Rome, puis Paul le renvoyait chez son maître, et le maître avait le droit de faire mourir un serviteur qui s'était éloigné. Alors Paul lui a fait une lettre, et il dit à Philémon, si tu me tiens pour attaché à toi, si tu me tiens pour ton ami, reçois Onésime comme moi-même. Vous trouvez pas que c'est beau? Reçois-le comme moi-même, comme si c'était moi. Et ce que tu ferais pour moi si je venais, bien fais-le pour Onésime. Car il est maintenant, non pas ton esclave, mais ton frère. Très pas que c'est merveilleux. Les changements qui se produisent même dans les relations, quand le Seigneur habite un cœur. Alors, revenir à la simplicité. Quant au Christ, c'est croire simplement ce que la Bible nous révèle du Seigneur Jésus. Et tout cela nous est révélé par le Saint-Esprit. Alors ce Fils unique, on s'est posé la question, d'où vient-il? On l'a vu, il vient du sein du Père. Et c'est là qu'on trouve, je disais ce matin, l'origine de l'amour. Ce Dieu qui est amour et qui est éternel a dans son cœur un fils qui est une personne. On n'a pas à discuter sur la Trinité comme le Saint-Esprit aussi est une personne. Mais il ne forme qu'un. Trois personnes en un, ça ne dépasse. Mais c'est là qu'on voit la source de l'amour. Car Jésus disait à son Père, tu m'as aimé avant, on l'a souligné, la création du monde. Donc l'amour existait avant la création du monde. Et nous avons vu que Jésus, quand il était sur la terre, et qu'il guérissait, et qu'on était étonné de voir cette puissance, il disait, mais ce que je fais, c'est pas de moi-même. C'est ce que j'ai vu faire par mon Père, chapitre 5 de Jean. Ce que je vous dis, cette parole qui vous touche, ce n'est pas la mienne. C'est la parole que j'ai entendue de mon père. Et c'est cette parole que je vous donne. Et il disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors en 1995, les paroles que nous trouvons dans l'évangile sont toujours valables. Et nous avons vu, en relisant les premiers versets du chapitre 1er de Jean, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était avec Dieu. Et nous avons vu que le Père et le Fils sont égaux avec le Saint-Esprit. Alors, ce qui est merveilleux, cette pensée, comme le disait Saint Augustin, qui travaillait en Afrique il y a bien bien longtemps, et qui avait cherché une explication à donner à ses paroissiens de Carthage au sujet de la Trinité, il se demandait, mais qu'est-ce que je peux leur dire pour que les gens comprennent ce que c'est que la Trinité? Saint Patrick, qui a évangélisé l'Irlande, se demandait aussi comment on pouvait expliquer à des païens la Trinité. Puis, comme il était en Irlande, tout d'un coup, il a vu un trèfle. Alors, il a arraché le trèfle. Puis, il leur a dit, « Bien, vous voyez, comme il y a trois lobes distincts, mais un seul trèfle, hein, en Dieu, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes en Dieu. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. » Et voilà quelque chose qui pouvait un tout petit peu les aider au sujet de la Trinité. Comme on a pris aussi, comme exemple, le soleil, il y a le foyer qui est inaccessible, ce serait Dieu le Père. Il y a le rayon qui vient du foyer, qui vient jusqu'à vous, c'est Dieu, le Fils. Et puis il y a la chaleur que vous ressentez, ce serait Dieu le Saint-Esprit qui vous habite et qui est réellement une personne sensible en vous. Et bien voilà, alors notre Augustin là qui était au bord de la mer se crevait les méninges pour donner puis une explication. Puis tout à coup il a vu un enfant. Hein, vous savez, on apprend beaucoup avec les enfants. Un enfant qui avait fait un trou dans le sable. Puis il avait un coquillage. Et il faisait la navette, il allait remplir son coquillage d'eau, et puis il mettait ça dans son petit trou. Puis il recommençait, il arrivait. Et puis Augustin lui dit, mais mon enfant, que fais-tu? Il dit, bien j'essaye de mettre toute l'eau de la mer dans mon petit trou. Puis là, il a eu une révélation. Bien, tu es cet enfant. Tu voudrais comprendre ce qu'est l'infini. Alors, n'essaye pas, mais va dire à tes paroissiens, en Dieu, vous avez un père, en Dieu, vous avez un fils, un frère, et puis en Dieu, vous avez une personne qui veut habiter dans votre cœur, qui n'est plus loin de vous, mais qui, maintenant, depuis la Pentecôte, est sur la terre. Nous sommes dans l'économie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, dans les cœurs de ceux qui croient. La demeure du Saint-Esprit n'est pas au ciel maintenant, on n'a pas à faire descendre le Saint-Esprit du ciel. Le Saint-Esprit est dans le cœur de ceux qui croient. Et il agit sur la terre. Et sa première action, comme on l'a dit, c'est convaincre les gens de péché. Et quand il nous a convaincus qu'on était perdus, alors il nous convainc que Jésus est le Sauveur. Et que si nous l'acceptons, eh bien, nous avons une relation merveilleuse avec lui. Et alors, de toute éternité, quand dans le conseil de Dieu, ils ont décidé, Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont décidé donc la création du monde. Et c'est le Fils unique qui a créé toute chose. Il a été d'abord le Créateur. Et Dieu a montré la puissance de son Fils unique
par les œuvres de la création qui sont belles et qui sont parfaites. Puis, il a créé l'homme à son image. On m'a demandé, depuis ce matin, si Dieu savait que l'homme pécherait. Ben, bien sûr que Dieu sait tout. Alors on dit, mais pourquoi alors qu'il n'a pas empêché l'homme de pécher? Mais pourquoi est-ce que vous voulez raisonner? Vous jugez Dieu, alors que Dieu avait un plan merveilleux. Tout ce qu'il avait créé obéissait à des lois. Mais il voulait un être qui ne soit pas obligé d'obéir à des lois, mais qui l'aime spontanément. Qui ne fasse pas les choses, parce que c'est pas possible de faire autrement. Le soleil, la lune, les étoiles obéissent à des lois. La mer doit s'arrêter à un certain moment. Tout ça obéit à des lois. Les saisons obéissent à des lois qui reviennent. Il y a le printemps, il y a combien de saisons? Quatre, hein? Mais ça revient d'une façon régulière. Alors, tout ça obéit à des lois. Mais l'homme qui voulait créer, il voulait le créer semblable à lui, à son image et à sa ressemblance. Alors, il le créait libre. Mais liberté n'était pas synonyme d'indépendance. Il était libre de son choix. Mais, qu'est-ce que l'homme a fait? Il y a eu Satan, on y reviendra, Satan, et qui a employé le serpent pour parler, lui aussi, et qui a séduit Ève et qui l'a fait manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant que le monde a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il est angoissé, parce que, justement, il est complètement dépassé. Dans le chemin de la connaissance, l'homme se perd et le monde va à la ruine. Parce qu'il est capable de faire le mal, mais il n'est pas capable de faire le bien. Quand on a trouvé la force atomique, on avait pensé qu'on l'emploierait surtout pour le bien. Puis qu'est-ce qu'on en a fait? Des bombes, hein? Toute cette intelligence, on l'a employée pour détruire. Et le monde s'en va vers la destruction. Mais le Seigneur, dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, avait décidé que si l'homme faisait le mauvais choix, il le sauverait. Et pour le sauver, le Créateur lui-même prendrait la forme d'un homme et viendrait vivre sur la terre. Et alors c'est là qu'on est bouleversé. Votre fiancé, fils unique et éternel de Dieu, source de tout amour, manifestation de toute puissance, eh bien, il a décidé de devenir un homme. C'est pas formidable? Tandis que l'homme voulait devenir Dieu. Et aujourd'hui encore, l'homme voudrait être Dieu. Eh bien, lui, Dieu, pour nous sauver, il a voulu devenir un homme. Et quand vous lisez les évangiles, vous trouverez quatre portraits de celui qui est le fiancé de votre âme. C'est un roi, c'est un serviteur, c'est un homme, il est vraiment humain. Mais il est maintenant, il est aussi divin. Alors nous nous arrêtons là, puis nous continuerons à apprendre à connaître Jésus, ce Jésus qui vient bientôt et qui nous réserve la gloire éternelle. Et qui voudrait qu'au lieu de penser que la vie chrétienne c'est quelque chose de lourd, que c'est impossible à vivre, il voudrait vous faire croire et vous montrer que vous n'avez peut-être pas connu la vraie vie. C'est pourquoi Paul disait, mais saisissez la vie éternelle. Saisissez-la. Vivez cette vie. Et qu'est-ce que c'est la vie éternelle? c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est vraiment Jésus. Dieu notre Père, ce que nous ne sommes pas capables de faire, tu peux l'accomplir par ton esprit. Tu nous prépares petit à petit à comprendre mieux ce que c'est qu'être fiancé à Christ dans ce monde. Et tu nous appelles. Nous avons vu ce que nous dit ta parole au sujet de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Donne-nous, étant averti, de te prendre au sérieux et de te donner, comme nous ne l'avons peut-être jamais fait, notre cœur pour ta seule gloire.